Allô? Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Je suis vraiment excitée. C'est la quatrième ou la cinquième fois que je prêche, alors soyez un petit peu indulgents. En tout cas, je suis vraiment contente. Mais avant de commencer, je sais que j'ai l'occasion de partager avec quelques-uns d'entre vous un peu mon histoire. Mais je sais qu'il y en a plusieurs ici qui ne connaissent pas nécessairement qui je suis, d'où je viens. Ils disent « C'est qui ça, Mylène Bravo? » Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Mylène Bravo. Je suis née au Chili. Ouais, bravo. Je suis née au Chili et je suis arrivée ici à l'âge de 3 ans avec mes parents. Alors, techniquement, ça fait de moi une Chilienne québécoise. Et c'est ça. Puis, mais l'affaire, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Des parents très impliqués qui servent le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Des bons exemples dans ma vie. J'ai grandi dans un nid d'amour parce que je suis enfant unique. Alors, vous pouvez imaginer l'attention que j'ai dans une famille latina. Mais pour moi, c'est un privilège. Par contre, malgré toutes les bonnes choses de ma vie, ça ne m'a pas empêché d'avoir des difficultés dans ma marche chrétienne. À l'âge de 10 ans, j'ai été diagnostiquée avec une maladie qui affecte 1% de la population mondiale, qui fait en sorte que j'ai des taches blanches. Je sais, ce n'est pas tout le monde qui l'a remarqué. Si l'hiver, je suis un petit peu plus blanche, je porte du maquillage. Mais en été, si vous me voyez, vous allez voir que j'ai deux couleurs de peau. Il n'y a pas de solution, je ne peux pas être guérie. Un docteur a dit à mes parents, écoutez, votre fille va être comme ça pour le reste de sa vie. Et si vous êtes croyant, tant mieux, priez fort parce que c'est la seule solution. On continue de prier. mais je suis une personne très heureuse aujourd'hui, mais dans le temps, une fois rendue au secondaire, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon estime. Ce qui est éventuellement lié avec des problèmes, des troubles alimentaires, l'anxiété, éventuellement de la dépression, ce qui a fait en sorte qu'à l'âge de 20 ans, j'ai été diagnostiquée avec un burn-out, une dépression. C'est vraiment triste. Qui a fait en sorte que j'ai dû prendre des médicaments, des antidépresseurs. Pas très le fun. Et surtout dans le temps, ça fait 6 ans. on n'en parlait pas trop dans l'église, alors c'était un petit peu tabou. On ne savait pas trop comment le faire. On ne savait pas quoi faire avec Mylène Bravo. Et j'ai cherché le Seigneur et c'était dur. Persévérer dans la foi avec autant d'obstacles, c'est très difficile. Mais toutefois, si je suis ici devant vous, c'est principalement grâce à toutes les personnes qui ont investi dans ma vie, qui se sont donné la peine de prier pour moi, de m'appuyer. Et c'est mon thème d'aujourd'hui, en fait. Parce que oui, je vous parle de moi, mais aussi c'est mon introduction. Je crois vivement en l'importance de la communauté, des amis. Et parfois, dans cette société, on est tellement habitué à être indépendant, fort, tout seul. On est tous capables, tout seul. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour nos vies. Et je veux... Mais là, Marc a dit le punch pendant qu'il priait, mais en tout cas, je vais vous raconter, en fait, je vais vous parler d'une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Étonnamment, mon histoire préférée, c'est l'histoire du paralytique. On connaît cette histoire principalement pour « Lève-toi et marche ». Puis on dit tout le temps la joke comme « Lève-toi et marche ». Mais dans cette histoire-là, il y a des éléments qui sont tellement intéressants. Puis plus je lis l'histoire, plus je me rends compte que, dans le fond, c'est une histoire d'amitié. Une histoire sur l'importance de la communauté. Et, wow! Puis je suis vraiment, vraiment contente de partager ce message avec vous parce que moi, ça m'excite. De savoir que Jésus veut qu'on soit en communauté. Et Jésus voit la communauté. Il en tient compte. Alors, sans plus tarder, je vais lire le passage. Ouh. Quelques jours après... Ah, pardon. Dans Marc 2, verset 1, 12. Je vais vous laisser le temps de trouver sur votre application, sur votre Bible. Et s'il vous plaît, éteignez vos téléphones, je me distrai vraiment vite. Alors, si ça sonne, je vais être comme partie. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes s'y rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te pardonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Wow! Ah. Et... cette histoire me fascine. Mais avant d'aller creuser un petit peu plus dans les éléments que je veux que vous et moi comprenions, je vais vous parler des quatre acteurs de l'histoire. Premièrement, on a l'homme paralysé. Qu'est-ce qu'on sait sur l'homme paralysé? Bien, évidemment, il est paralysé. Il est sur un brancard. Puis, c'est un pêcheur. Et ensuite, on a les quatre amis. Ce n'est pas spécifiquement écrit que c'est ses amis, mais entre vous et moi, je ne transporterais pas nécessairement un inconnu sur un brancard pendant vraiment longtemps au point d'aller sur un toit d'une maison, le descendre. Je pense qu'il y a de l'amitié, là. Et, ouais, ça doit être lourd de transporter un homme pendant longtemps. Imaginez-vous, selon les statistiques, un homme moyen devrait peser 75 kilos. J'ai de la misère à tenir un bébé pendant plus que 10 minutes. Je ne veux même pas imaginer traîner un homme pendant vraiment longtemps. Et on a aussi Jésus. Qui est qui? Le Messie. Il guérit, il sauve, il pardonne et c'est le Fils de Dieu. Et on a les spécialistes de la loi, évidemment, qui critiquent comme d'habitude Jésus. Ils n'ont pas nécessairement foi en lui. Puis, bon, ils sont un petit peu là. Bon, maintenant qu'on a plus de détails sur les personnages, on peut creuser un petit peu plus dans les éléments de l'histoire qui sont, selon moi, très importants. Et j'ai nommé ma prêche « Ensemble vers Jésus » parce que qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ces quatre hommes ont dû passer par des hauts et des bas, littéralement et pas littéralement, pour amener le paralytique à Jésus. Et ils ont dû surmonter différents défis pour arriver à cet objectif-là. Et un des défis, c'était se rendre premièrement à la maison où Jésus était. Bien que ce n'est pas explicitement marqué dans la Bible, j'imagine que pour amener le paralytique à Jésus, il devait premièrement le convaincre. Des fois, ce n'est pas une tâche facile, mais si on veut le transmettre aujourd'hui, d'amener un non-croyant à l'église. Puis là, en plus, ils ont dû le déplacer sur un brancard. Et là, une fois sur le brancard, ils doivent être quatre pour l'amener à la maison où Jésus était. Alors, pour illustrer à quel point ça devait être difficile, c'est comme si on était quatre personnes dans une voiture, chacun avec un volant qui dirige une roue. Je ne voudrais pas conduire dans les rues si ça serait ça à Montréal, parce qu'on irait toutes vers des directions différentes. Il faut absolument être synchronisé, organisé et mettre de côté nos différences vers un objectif qui est commun. Et c'est qu'est-ce que ces quatre hommes ont dû faire pour amener le paralytique vers Jésus. Est-ce que nous, parfois, on est capable de laisser de côté nos différences pour amener quelqu'un à Jésus? Ensuite, le deuxième obstacle, c'est qu'une fois arrivé à la maison où est-ce que Jésus était, il y avait une foule. En fait, ici, on cite que quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Des fois, on ne se rend pas compte, mais des fois, on est un obstacle pour les personnes. On veut... Des fois, il y a trop de monde ou parfois, tout simplement, nos préjugés prennent le dessus, ce qui va limiter une personne à rentrer. Ce qui fait en sorte que ces quatre hommes ont dû faire quoi? Trouver une solution qui était de passer au-dessus, au toit de la maison pour ensuite le redescendre. Imaginez la tâche de ces quatre hommes. Déjà que c'était probablement une longue marche à rendre à la maison. Une fois rendu à la maison, il faut être ingénieux, trouver un moyen de déplacer un homme sur un brancard. Et on s'entend, le brancard, ce n'est pas comme un brancard qu'on trouve dans les ambulances aujourd'hui, tout équipé avec un système d'oxygène avec des roues. Non, on parle d'un brancard probablement fait à la main, pas très confortable et pas super high-tech. L'illustration, juste un petit lit. Et l'amener jusqu'au toit de la maison. Puis j'imagine que le paralytique, vu qu'il est paralysé, il ne peut pas vraiment collaborer. Il ne peut pas bouger. Alors, il devait juste être là en train de les regarder pendant que ses quatre amis font toute la job pour l'amener au toit. Et une fois rendu au toit, ils font un petit trou et ils descendent le lit où est-ce que l'homme paralytique est. C'est clairement un travail difficile. Mais ces hommes n'ont pas abandonné. Ces hommes reflètent ce qu'est un vrai ami. Ils savaient que l'homme paralytique ne pouvait pas se rendre par ses propres forces aux pieds de Jésus. Il avait besoin d'aide. Et ils se sont offerts pour le transporter. Malgré les obstacles, malgré les défis, malgré la foule, ils ont passé au-dessus de tout ça parce qu'ils avaient foi en Jésus, sachant qu'il était le seul qui pouvait le sauver et le guérir et le restaurer et le transformer. Vous et moi, si nous sommes ici ce matin, nous savons très bien que c'est vrai. Vous êtes des témoignages que Dieu est vivant, qu'il est notre sauveur, que Jésus nous guérit et qu'il nous pardonne continuellement. On est aussi la preuve qu'il y a une communauté derrière chacun d'entre nous. Prenons une petite seconde et pensons à toutes les personnes qui ont prié pour nous lorsqu'on en avait le plus besoin, lorsqu'on n'avait plus de force pour persévérer. Lorsqu'on était pris. Parce que être paralysé, c'est aussi être paralysé dans notre foi. Ou est-ce qu'on est incapable de marcher, on est incapable de prier, on est incapable de louer le Seigneur. Et moi, ça m'arrive. C'est pas parce que j'étudie en théologie ou parce que je vis dans une bonne famille ou parce que je crois en Jésus que j'ai pas des défis dans ma foi. Mais j'ai une communauté. J'ai des amis sur qui compter et vers qui je suis complètement honnête sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie et je sais qu'ils vont prier pour moi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais est-ce que nous aussi, on est capable d'être ce genre d'amis pour quelqu'un qui vient d'arriver à l'Église? Ou est-ce qu'on veut être comme la foule et être un obstacle? Et c'est pas tout! Une fois que le paralytique s'est rendu aux pieds de Jésus, qu'est-ce qui arrive au verset 5? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Wow! Ça vient tout changer ici. Est-ce que vous vous rendez compte? Je répète, en voyant leur foi. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ici, on ne parle pas de la foi du paralytique, on parle de la foi des amis. Dans les autres récits de la Bible, on dit habituellement, Jésus dit habituellement à la personne qui guérit, « Mon enfant, par ta foi, tes péchés te sont pardonnés. » Mais ici, c'est par la foi des amis. Est-ce que vous vous rendez compte de qu'est-ce que ça implique dans nos vies? Nos prières pour nos amis comptent. Jésus voit ça. Jésus voit notre foi. Il en tient compte. Moi, ça me donne le goût de plus prier pour mes amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage. En tant qu'amis, en tant que frères et sœurs, en tant que membres d'une communauté, nous avons un rôle à jouer. Prier les uns pour les autres. Pas juste prier pour nous. C'est facile de prier pour nous. Ensuite, je pense que j'ai comme oublié d'avancer mon PowerPoint. Okay. Ensuite, c'est pas seulement ça. Non seulement il pardonne ses péchés, mais qu'est-ce qui arrive après? Il est guéri! Comme c'est pas tout. Jésus ne fait jamais les choses à moitié. Au verset 6, ça dit, « Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralysés. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Wow! Je suis tellement excitée de raconter cette histoire-là. Il y a tellement des éléments. Avouez qu'on apprend des choses ce matin. Parfois, on peut être nous les spécialistes de la loi et critiquer qu'est-ce que Jésus fait. On met en doute l'œuvre dans notre communauté. Moi, je ne veux pas être ces personnes-là. Moi, je veux être ceux qui célèbrent. Jésus guérit le paralytique. Et c'est quoi? C'est le fruit de la foi de ses amis. C'est le fruit de la persévérance de ses amis. Ses amis ont surmonté plein de défis afin que ce paralytique se rende aux pieds de Jésus. Et Jésus a vu ça et il l'a récompensé en le pardonnant, en l'appelant mon fils. Hey, on veut tout être appelé mon fils. Moi, je vais t'appeler ma fille, mais en tout cas. Il était maintenant membre de sa famille. Il y a un lien d'appartenance ici. Et ensuite, lorsque le paralytique a rencontré Jésus, il a obéi. Il s'est levé, pris son brancard, il est parti. Mes amis, frères et sœurs, lorsqu'on rencontre Jésus, pour de vrai, nos vies sont tellement transformées qu'on nous ne sommes plus les mêmes personnes. Maintenant, il peut marcher, mais il a aussi obéi à ce que Jésus lui avait commandé de faire. Se lever, prendre son brancard et marcher. Et ensuite, tous les gens qui étaient dans la maison, la foule a vu qu'est-ce qui s'est passé et ils ont célébré en rendant gloire à Dieu pour qu'est-ce qui venait de se passer. La victoire de un est la victoire de tous. Et J'ai une histoire à vous raconter. J'ai beaucoup d'histoires, mais en tout cas, je vais me limiter à une histoire. Moi, je suis leader jeunesse à mon église, à Bethel. Et j'ai un bon groupe d'ados. Je les aime. Ils sont vraiment le fun. Et j'ai aussi des amis. Et un des amis de la famille a comme 3 enfants. Et un d'entre eux est en adolescence, est au secondaire. Et il a beaucoup de difficultés à se faire des amis. Il se fait intimider, beaucoup de difficultés scolaires. Et parce que c'est des amis de la famille, je sais très bien qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et eux autres se sont éloignés de l'Église, éloignés de la foi, pour différentes raisons. Mais à chaque fois que j'allais chez eux ou ils venaient chez moi, je leur parlais des ados, les ados ici, les ados là. Puis lorsque j'ai vu chez ce jeune garçon les yeux briller, j'ai dit « Ah, il faut que je l'invite à la jeunesse de Bethel. » Je l'ai fait. Ses parents ne vont plus à l'église. Mais lui, à chaque fois qu'il y a une activité avec les jeunes, il est très content d'y assister. Les ados sont devenus une communauté et ses amis. Bien évidemment, il y a des défis parce que c'est des adolescents, mais c'est des êtres humains parce qu'il faut l'avouer, on est complexe. Mais ces 10 ados sont devenus une famille, des amis pour ce garçon. Ce garçon qui est brisé par le rejet qu'il vit de la société, par les difficultés qu'il vit. Il n'est peut-être pas encore rendu au pied de Jésus, mais j'ai foi et je prie pour qu'il puisse être transformé par cette rencontre. Est-ce que nous, en tant que communauté, nous voulons être ce genre de communauté qui accueille? Et j'aime bien imaginer. Et je me dis, si on imaginait une église, si on imaginait l'oasis en tant qu'une église qui n'est pas une foule, sinon que simplement des serviteurs du Seigneur. Des serviteurs qui sont prêts à surmonter tous les défis, laisser de côté leurs différences pour un objectif commun, aller vers Jésus, être transformé par Jésus, être guéri et pardonné. Moi, ça me tente de faire partie d'une église comme ça. Mais le changement commence par nous. Est-ce que nous, on est prêts à surmonter des défis? Pour notre frère qui est dans notre besoin, pour notre voisin qui ne connaît pas Jésus. Moi, je lève ma main et je m'engage. Parce que c'est ça notre devoir. Nous avons tous besoin d'une communauté. Nous avons tous besoin d'amis, de frères et de sœurs, d'une famille pour nous soutenir. Mais cessons d'imaginer et faisons-le ensemble. Est-ce que ça vous tente? Moi, ça me tente. Et je voudrais finir avec une courte prière. Seigneur, je te remercie pour l'Oasis. Je te remercie parce que l'Oasis est devenu pour moi une famille, une communauté, un support. Mais Seigneur, pour chaque membre ici présent, parce que nous sommes tous un corps et nous dépendons les uns des autres. Seigneur, guide-nous en tant qu'Église vers ta volonté, vers toi. Aide-nous à ne pas être un obstacle pour les personnes qui veulent se rendre à toi, mais que nous puissions être comme ces 4 hommes qui ont transporté le paralytique malgré les défis. Seigneur, aide-nous à être à ton image. Et je te remercie pour chacune des vies présentes ici. Parce que tu es bon. Et parce que tu nous aimes et nous t'aimons. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.